4.
Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Mouhamadou Oumfa.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Focus Sahel, l'émission qui vous offre une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au sommaire de cette édition, gros plan sur la situation au Mali. La justice malienne a libéré le 5 décembre dernier 11 opposants, dont d'anciens ministres et de présidents de partis et mouvements politiques signataires d'une déclaration qui appelait les militaires à rendre le pouvoir aux civils. Cette libération survient après la nomination du général Abdoulaye Maïga au poste de Premier ministre en lieu et place de Choguel Kokala Maïga. Le chef de l'État, le général Assimi Goïta, a instruit le nouveau Premier ministre et son gouvernement de créer les conditions nécessaires à l'organisation d'élections transparentes et apaisées qui devront mettre un terme à la transition. À suivre le reportage de notre correspondant au Mali, Mohamed Danioko, et l'analyse de Soumaïla La. Il est le coordonnateur de l'Alliance citoyenne pour la réforme du secteur de la sécurité au Sahel. Nous parlerons ensuite du Maroc qui veut aider certains pays du Sahel central à sortir de leur isolement grâce à un programme de développement conjoint et d'accès portuaire connu sous le nom d'initiative Atlantique. Le fait marquant de la semaine, c'est le remaniement ministériel au Burkina Faso. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a nommé dimanche un nouveau gouvernement. Deux jours après l'avoir dissous et après avoir démis vendredi de ses fonctions, le Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela. Nous en parlerons avec Albert Nagreogo. Il est le directeur de publication du site d'information libreinfo.net. Nous vous amènerons enfin au Ghana qui vient d'élire un nouveau président et se prépare à vivre une transition en douceur, confirmant son statut d'exception démocratique en Afrique. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage de découverte et d'information dans le Sahel. Au Mali, après 168 jours de détention, 11 leaders politiques à qui il était reproché d'avoir bravé l'interdiction de tenir des activités politiques et vouloir déstabiliser le pays sont en liberté provisoire. Une liberté accordée après plusieurs refus devant les tribunaux et qui coïncide avec l'arrivée à la primature du général de division Abdoulaye Maïga. Si d'aucuns estiment que cette liberté, même provisoire, participe à la décrispation de la scène politique, d'autres y voient le signe d'une organisation très prochaine des élections. Reportage à Bamako de notre correspondant Mohamed Danioko.
Le 12 novembre dernier, pour la énième fois, la Cour d'appel décidait de ne pas accorder la liberté provisoire aux 11 leaders politiques emprisonnés depuis le 20 juin dernier. Leur libération, moins d'un mois plus tard, le 5 décembre, soit deux semaines après la prise de fonction du général de division Abdoulaye Maïga comme Premier ministre, ne manque pas d'attirer l'attention. Pour l'analyste politique Ahmadou Touré, le pouvoir pourrait en fait chercher à restaurer la confiance avec la classe politique.
Il a fait ce qu'on appelle un coup politique. Parce que non seulement la libération des 11 leaders politiques coïncide avec la réunion, la première réunion de concertation avec les partis politiques. Donc c'est pour mettre les partis politiques en confiance, même si dans le fond, on peut douter aussi que c'est une stratégie politique du président de la transition visant à atteindre surtout le climat politique. Parce que s'il n'était pas libre, cette question pourrait être posée lors de la rencontre, pourrait donner à d'autres actions ultérieures menées par les partisans de ces 11 leaders. Mais dans l'ensemble, c'est un coup politique réussi par Abdoulaye Maïga.
Ayant un ministre délégué en charge des questions électorales et ayant reçu les instructions de la part du président de la transition lors de son tout premier conseil des ministres, le Premier ministre ne serait pas étranger à cette libération qui participe à la mise en œuvre des instructions pour l'organisation très prochaine d'élections transparentes et apaisées.
selon Oumar Konaté, le directeur de publication du journal La Preuve.
C'est un signe, en tout cas pour l'instant, qui prouve la volonté des autorités de la transition à aller vers les élections pour notifier le retour à l'ordre constitutionnel. Parce que vouloir organiser les élections, en tout cas même s'ils affichent leur volonté d'organiser les élections, pendant que ces cadres politiques, ces leaders politiques sont en prison, la population n'allait pas accorder de crédit à leur volonté.
Cette liberté provisoire accordée aux politiques soulève celle des autres détenus qui sont qualifiés par de nombreux observateurs comme des prisonniers d'opinion. Sur la toile, des postes pour demander leur libération après celle des politiques fleurissent. Le juriste Ibrahima Sakou interpelle les autorités judiciaires.
Je pense qu'aujourd'hui les autorités judiciaires doivent penser également à la libération des autres détenus qu'on peut qualifier entre guillemets des détenus politiques également, parce que quand tu regardes un peu la plupart de ces personnes, soit ils ont tenu des propos qui ont été, c'est-à-dire qu'ils ont tenu des propos dans les contextes politiques qui a fait qu'ils ont été en tout cas interpellés d'une manière ou autre.
Pour de nombreux citoyens, aller au bout de la logique des libérations permettra de traduire dans les faits la volonté du président de la transition d'avoir des élections transparentes et surtout apaisées. Kaboro Koulibaly, citoyen.
Et la libération des prisonniers, en tout cas des hommes politiques, a été une très belle initiative. Parce que le Mali actuel en a besoin de l'union sacrée. Et chacun a sa part pour le développement et la cohésion sociale du Mali. Quoi. En tout cas, ça a été une très bonne chose. Et en ce qui concerne les autres détenus, moi je pense que on est dans un pays de droit. Et la justice fera sa part et pour leur cas. Quoi.
Un peu avant le leader politique, c'était l'ancien ministre de l'énergie, Lamine Seydou Traoré, qui obtenait sa mise en liberté provisoire. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Merci beaucoup Mohamed Danyoko pour ce reportage. Retrouvons immédiatement à Bamako Soumaïla La pour une analyse. Soumaïla La est le coordonnateur de l'Alliance citoyenne pour la réforme du secteur de la sécurité au Sahel. Bonsoir Soumaïla La.
Bonsoir.
Alors, on vient de suivre le reportage sur la libération de ces personnalités. Alors, tout d'abord, Soumaïla, pouvez-vous nous expliquer le contexte dans lequel est survenue cette actualité? Quelles sont les possibles motivations des autorités maliennes? Pourquoi elles ont décidé de libérer ces personnes?
Moi, je vois deux principales motivations. La première, c'est qu'il y a eu depuis un moment une tentative de médiation portée par l'ancien premier ministre Ousmane Issoufi Maïga, qui est très proche des autorités actuelles de transition et qui préside la commission d'élaboration de la charte de la paix et de la réconciliation. Donc c'est une figure emblématique de l'administration malienne, qui est très respecté et qui a, dans les coulisses, travaillé à plaider, on va dire, la cause de ces 11 détenus auprès des autorités actuelles. Ça, c'est pour moi la première lecture. La seconde lecture, c'est qu'avec le changement de paradigme dû au départ de la primature de Choguel Kokala Maïga, il fallait quelque part tendre la main d'une manière ou d'une autre à la classe politique, d'autant plus que tous les signaux nous montrent aujourd'hui que les autorités de la transition veulent aller vers de probables élections. Et pour amorcer, on va dire, ce virage, il était crucial quand même d'être dans une dynamique constructive avec les partis politiques. Je pense que nul aurait été ces libérations. Les détenus qui sont des partis comme l'ADEMA et d'autres partis emblématiques, ces partis n'auraient pas véritablement tendu la main à l'approche aujourd'hui du Premier ministre qui veut échanger avec les partis politiques, qui a d'ailleurs échangé avec les partis politiques, avec la société civile, en vue probablement d'aller aux prochaines élections. Mais ce qui est une tâche, on va dire, dans cette volonté qui a permis cette libération, c'est que la justice a été clairement dévoyé parce que avant cette immixtion politique, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs demandes de libération provisoire de la part des avocats de ces politiques qui étaient détenus, qui sont restés lettres mortes, qui n'ont pas pu avoir, on va dire, l'assentiment de la justice. Donc, partant de là, on va dire que le politique l'a emporté sur la justice.
Alors, on l'a bien suivi dans le reportage, Soumaï Lala. Maintenant, parlons de l'impact de ces libérations. Est-ce que vous pensez que ces libérations peuvent avoir un impact sur la lutte que ces responsables politiques menaient pour le retour des civils au pouvoir? Est-ce que vous pensez que cette libération va favoriser le dialogue ou au contraire, on s'en va vers une situation encore plus tendue avant les élections qui s'annoncent et une élection présidentielle à laquelle le général au pouvoir pourrait être candidat, Assimi Goïta?
Difficile de le dire à ce stade. Je pense que tous les scénarios sont possibles. Tout va dépendre, on va dire, des orientations que les autorités actuelles vont donner aux prochaines élections. Je pense que la situation va évoluer dans un sens ou l'autre en fonction de la probable candidature ou pas du locataire actuel de Koulouba, qui n'est autre que le président de la transition, Assimi Goïta. Et est-ce que ces libérations vont permettre à ceux qui avaient été détenus au parti politique d'aller plus en profondeur dans leur lutte pour la remise du pouvoir aux civils? Je ne pense pas, mais ce qui est constant, c'est que au regard de la configuration, au regard de la probabilité d'aller aux élections en 2025, je pense que tous les scénarios, encore une fois, restent possibles et tout va dépendre de l'orientation que les autorités actuelles vont de donner à cette volonté d'aller aux élections. Est-ce que ces élections vont porter la candidature, vont voir la candidature du président Goïta porter? Je pense qu'à partir de là, les partis politiques, pour en tout cas l'essentiel, vont se braquer. Est-ce que le président de la transition ne sera pas candidat? À partir de là, je pense qu'il y aura une décrispation de la part des politiques.
En tout cas, on va suivre cela sur VOA Afrique. Soumaï Lala, dernière question avant de vous laisser partir. On a donc un nouveau premier ministre, le général Abdoulaye Maïga. Quelles sont, selon vous, ses principales missions et ses priorités? Rapidement.
Je pense que ses principales missions ont été définies lors du premier conseil des ministres qui a suivi sa nomination. C'est la continuité dans les réformes qui ont été annoncées depuis un certain temps. C'est aussi l'organisation des élections. Je pense qu'aujourd'hui, sa principale priorité, au-delà de ces réformes, c'est d'aller aux élections. C'est sur ce terrain qu'il est attendu. Il est aussi attendu sur la problématique de la réconciliation. Aujourd'hui, il faut savoir que les Maliens sont très divisés sur pas mal de questions. Et l'une de ses missions, c'est de faire en sorte que les Maliens parlent le même langage, les Maliens se donnent la main et que les élections se passent dans la transparence la plus totale. C'est véritablement, de mon point de vue, la principale mission qui sera la mission du général Abdoulaye Maïga.
Merci beaucoup, Soumaï Lala, pour votre analyse. Et on va retrouver Mohamed Danyoko qui a réalisé ce reportage. Bienvenue, Mohamed.
Bonsoir.
Alors, quelques nouvelles pour commencer, hein, les 11 détenus. Est-ce que vous savez ce que ces détenus sont devenus? Est-ce que vous savez quel est leur état d'esprit? Est-ce que la prison a affecté leur engagement?
Et oui, hein, après leur libération, on a vu en tout cas une scène d'accueil. Ils ont été accueillis pour la plupart, en tout cas ils étaient dans certains endroits, ils ont été accueillis par les militants, les sympathisants. Et après, beaucoup sont repartis chez eux. Et quelques-uns ont eu à rencontrer leurs militants de vie et leur parler de vive voix. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il est trop tôt pour dire cela, parce que lors de ces rencontres-là qu'il y a eu, c'était vraiment pour rassurer, n'est-ce pas, les militants et les sympathisants et dire que tout allait bien. Mais au-delà de ça, il n'y a pas eu de propos qui peut même prêter à interprétation ou qui peut même, n'est-ce pas, amener à croire est-ce que ça va, est-ce que ça ne va pas. Mais nous espérons, sinon nous pensons que dans les jours à venir, certainement, il y aura des actions et l'on pourra savoir effectivement quel est leur état d'âme, comment est-ce qu'ils ressortent de la prison et quelles sont leurs perspectives pour cette politique-là.
Oui, alors Mohamed, merci pour la concision. Rapidement, dans votre reportage, vous avez évoqué les cas d'autres prisonniers d'opinion qui sont encore détenus. Pouvez-vous nous en dire plus?
Et effectivement, dans le reportage, on a pu entendre certains dire que c'est bien, les gens s'en réjouissent de cette libération des 11 leaders, mais ils disent, et pourtant, il y a certains qui sont encore en prison, notamment, on parle de Rasbach, on parle de Rose, et on parle de Clément Dembélé et beaucoup d'autres qui sont en prison. Et pour ceux-là qui, en tout cas, se sont exprimés, pensent que leur opinion était par rapport à des faits de société, à des questions politiques. Et partant de cela, le fait qu'ils soient en prison aujourd'hui, ils peuvent être considérés comme des détenus politiques. Et aujourd'hui, après la libération des 11, il serait bien, pour continuer dans la logique de décrispation de la situation politique et même sociale, d'aller vers leur libération.
Merci beaucoup, Mohamed Danyoko, correspondant de VOA Afrique au Mali. Et puis, un commentaire Facebook, avant de mettre un terme à cette partie du programme, dit Michel Kazadikatoum, qui a écrit sur la page Facebook de VOA Afrique, il dit ces élections seront une simple formalité, d'autant plus que les militaires au pouvoir n'ont pas fait preuve de bonne volonté pour rendre le pouvoir aux civils. Ce seront eux-mêmes qui gagneront ces élections. Merci donc Eddy Michel. Merci également à tous ceux qui ont réagi sur ce sujet dans nos différentes plateformes digitales. La suite de Focus Sahel, c'est dans quelques instants. Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h en temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Le Maroc envisage de sortir les pays du Sahel central tels que le Burkina Faso, le Niger et le Mali de leur isolement grâce à un programme de développement conjoint et d'accès portuaire connu sous le nom d'Initiative Atlantique. C'est en tout cas ce qu'a indiqué le ministre marocain des Affaires étrangères en novembre dernier. Dans leur lutte contre les groupes terroristes, les pays du Sahel central se sont détournés de certains de leurs partenaires régionaux et internationaux. Que peuvent faire les voisins de ces pays pour leur tendre la main? Élément de réponse dans ce reportage de Henry Wilkins. Le récit est de Dini Niwa.
Les pays du Sahel central, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, poursuivent leur lutte contre les groupes armés qui ont semé l'instabilité dans la région. Ces deux dernières années, ils ont coupé les liens avec la France et les États-Unis, qui leur fournissaient une assistance militaire, et avec la CEDEAO, qui regroupe certains de leurs partenaires commerciaux les plus proches. Les régimes militaires du Sahel central ont déclaré que ces entités entravaient leurs efforts pour vaincre les djihadistes. Dans un entretien le mois dernier, le ministre des Affaires étrangères marocain a déclaré que son pays tente de sortir la région de son isolement. Bakary Sambé, de l'Institut de Tombouctou au Mali.
Le fait de lancer cette initiative atlantique, dont l'objectif déclaré est de connecter les pays côtiers et de désenclaver les pays du Sahel, entre toujours dans cette perspective marocaine de s'illustrer en tant qu'un État qui doit sauvegarder ses liens historiques, mais aussi ses intérêts stratégiques.
Selon Paul Melly, consultant à Chatham House, bien que le Maroc ait un poids économique et un intérêt stratégique dans la stabilité en Afrique de l'Ouest, sa position géographique pourrait rendre l'initiative difficile.
L'économie de l'utilisation des ports marocains, vous savez, soit vous passez par la Mauritanie, auquel cas c'est un chemin incroyablement mauvais, soit vous traversez le Sahara. Je pense qu'il faudrait passer par la Mauritanie. Et dans ce cas, vous savez, c'est géographiquement un très long chemin.
L'expert souligne que les conditions de sécurité rendent la route du Sahara dangereuse. Malgré des relations tendues, les pays enclavés du Sahel central dépendent encore fortement des pays côtiers limitrophes pour l'accès aux ports comme le Sénégal, le Bénin, le Ghana, le Togo et la Côte d'Ivoire. Bakary Sambé, de l'Institut de Tombouctou au Mali, estime que la diplomatie culturelle pourrait être plus efficace.
Le Maroc a réussi pendant la prévention de l'extrémisme violent et la lutte contre le terrorisme à former les imams, c'est-à-dire promouvoir un type d'islam tolérant qui pourrait être une alternative par rapport à l'extrémisme religieux.
Selon lui, les États côtiers devraient adopter une vision à long terme des relations et garder à l'esprit que les juntes militaires sont probablement une phase passagère dans l'histoire de la région.
C'était bel et bien Nathalie Barge qui relatait ce reportage de Henry Wilkins. À présent, le fait marquant de la semaine. Au Burkina Faso, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a démis de ses fonctions vendredi. Le premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela est dissous le gouvernement. Le lendemain, il a nommé au poste de premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo. Et dimanche, une nouvelle équipe gouvernementale a été formée comme la précédente. Elle compte 24 ministres, dont 3 femmes. Pour parler de ce remaniement ministériel, retrouvons à Ouagadougou Albert Nagriogo. Il est directeur de publication du site d'information libreinfo.net. Bonsoir Albert.
Bonsoir.
Alors, tout d'abord, quelle analyse faites-vous de la formation de ce gouvernement? Est-ce que c'est un gouvernement qui a été formé pour résoudre un problème précis? Qu'est-ce que vous pensez des changements effectués dans cette équipe?
Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un changement, dans l'opinion, on en parlait depuis longtemps. Sauf que cette fois-ci, c'était pas attendu et je peux dire que le président Ibrahim Traoré a pris tout le monde du coup parce que vendredi soir, c'était au lendemain du Conseil des ministres qui a eu lieu jeudi. Et vendredi, en début de soirée, on apprend que le premier ministre a été démis de ses fonctions et le gouvernement aussi est dissous. On s'est posé la question tous, qu'est-ce qui a pu motiver cette décision du président du Faso Ibrahim Traoré? Mais bon, pas de réponse. Les choses sont allées très vite parce que au lendemain déjà, samedi, on a connu le nom du premier ministre qui est issu d'ailleurs de ce gouvernement et donc qui est membre du gouvernement depuis 2022, octobre 2022. Et le dimanche, on a connu la composition du nouveau gouvernement de ce premier ministre qui n'est autre que Jean-Emmanuel Ouédraogo.
Alors, comment est-ce qu'on réagit là-bas au Burkina Faso à la formation de ce gouvernement? Est-ce qu'il y a eu des réactions dans la classe politique, dans la société civile, dans la société civile, dans la presse? Et d'ailleurs, quelles sont les attentes des Burkinabés par rapport à ce nouveau gouvernement?
Je commence par votre dernière question. Les attentes des Burkinabés, c'est la sécurité du pays, la sécurité sur l'ensemble du territoire. Vous savez très bien que depuis près de 10 ans maintenant, le pays est confronté à une crise terroriste, donc sécuritaire, mais aussi une crise humanitaire. Donc, on parle parfois d'une double crise, sécuritaire, humanitaire. Donc, aujourd'hui, les attentes des Burkinabés, c'est la résolution de la crise sécuritaire et la résolution aussi de la crise humanitaire d'une autre manière. Et ensuite, bien entendu, la relance de l'économie, parce que la sécurité, l'insécurité aujourd'hui a fait que l'économie n'est pas très bien portante. Alors, donc, c'est vraiment les principales attentes de Burkinabé. Maintenant, pour question des réactions, il faut aussi se dire que depuis la prise du pouvoir par le président Ibrahim Traoré, le 30 septembre 2022, jusqu'à 48 ou 72 heures, il avait pris une décision qui interdisait toute activité des partis politiques. Les activités des partis politiques sont suspendues depuis cette période jusqu'à aujourd'hui, y compris les organisations de la société civile. Donc, les partis politiques et les organisations de la société civile réagissent très peu à des décisions politiques. Parfois, des déclarations, une fois en passant, ce qui concerne la vie de la nation, quand le pays est éprouvé peut-être par des attaques à un certain nombre élevé de victimes, bon, on voit des messages de solidarité, de compassion. Mais en ce qui concerne, par exemple, le cas du gouvernement, à ma connaissance, on n'a pas vu de réaction officielle véritablement d'un parti politique qui apprécie, qui juge ce changement à la tête du gouvernement, le premier ministre et la composition du nouveau gouvernement. Vraiment, on n'en a pas eu. Dans la presse, c'est vraiment une appréciation comme ça, hein, c'est des annonces, des titres informatifs. on évite trop d'aller dans les commentaires, dans les analyses. Et bon, on croit que le remaniement, c'est vrai que il n'a pas été aussi profond que ça, mais bon, les presses n'en font pas véritablement un événement aussi particulier, non, loin de là.
Merci beaucoup Albert Nagréogo d'avoir répondu à nos questions depuis Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Je rappelle que vous êtes le directeur directeur de publication du site d'information libreinfo.net. La suite de Focus Sahel, c'est dans un instant. Maintenant, on va parler de la note positive de cette édition. Vous l'avez certainement suivi sur les antennes de VOA Afrique. Les Ghanéens ont élu le candidat de l'opposition, John Dramani Mahamat, comme nouveau président au terme de la présidentielle qui a eu lieu samedi dernier. Le candidat du parti au pouvoir a reconnu sa défaite dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest, fidèle à sa tradition d'alternance politique pacifique. Trésor Matondo nous en dit plus.
À peine 24 heures après le scrutin présidentiel, la présidente de la commission électorale, Jean Mensah, a proclamé le résultat des élections. Elle a ainsi annoncé que John Dramani Mahama était le vainqueur du scrutin, marquant ainsi une étape décisive dans le processus électoral du pays. Le candidat du parti au pouvoir et vice-président ghanéen Mahamoudou Bawumia a accepté sa défaite dimanche, exprimant ses félicitations à son rival John Mahama avant même l'annonce des résultats officiels.
Le peuple ghanéen s'est exprimé. Il a voté pour le changement.
Et
nous les respectons en toute humilité. J'assure Son Excellence John Dramani Mahama de mon soutien total dans le processus de transition.
L'opposition a aussi remporté les élections législatives qui se tenaient également samedi. Sur son compte X, John Mahama a confirmé avoir reçu l'appel de félicitations de M. Bawumia. Âgé de 66 ans, M. Mahama fut président du Ghana de 2012 à 2017. Il a promis de relancer l'économie et mettre en place des réformes anticorruption. Laïla Alassane, commerçante et partisane de Mahama, exprime sa joie suite à la victoire du Ghana.
Le Ghana a gagné, nous sommes heureux, nous sommes très heureux pour Son Excellence John Dramani Mahama. Le bâtisseur de la nation est de retour pour construire notre Ghana pour nous. Nous avons besoin d'écoles, d'hôpitaux et de travail.
Selon Akassi Danso, un partisan de Mahama, sa joie découle de la conviction que Dieu a exaucé leur prière en désignant le candidat idéal pour le Ghana.
Aujourd'hui, je suis si heureux. C'est parce que Dieu Tout-Puissant a écouté nos prières et a choisi celui dont les Ghanéens ont besoin pour être le prochain président de la République du Ghana. Les Ghanéens sont donc heureux.
L'ambassade des États-Unis à Accra a salué une élection réussie qui reflète la volonté du peuple ghanéen. Depuis le retour au multipartisme en 1992, le Ghana incarne une démocratie exemplaire avec des alternances pacifiques tous les 8 ans. Les deux principaux partis du Ghana ont alterné au pouvoir de manière égale. Premier producteur d'or du continent et grand exploitateur de cacao, le pays est considéré comme un investisseur privilégié sur les continents et comme un modèle de stabilité dans une région secouée par des récents coups d'État, des défis constitutionnels et des insurrections.
C'est avec cette note positive que nous mettons un terme à cette édition de Focus Sahel. Un grand merci au public qui nous a accompagnés dans ce voyage. Un grand merci à Soumaï Lala qui était notre invité. Et merci également à notre correspondant Mohamed Danyoko qui était avec nous. Et Albert Nagréogo qui a répondu à nos questions depuis Ouagadougou. Enfin, je tiens particulièrement à saluer tous ceux qui ont réagi sur ce sujet sur nos différentes plateformes digitales. Mohamedou Oumfa à ce micro, Trésor Matondo et Lionel Gaïma ont assuré la production de cette émission. Nous vous remercions d'avoir écouté et regardé Focus Sahel. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur notre site web voaafrique.com. À très bientôt.
C'était Focus Sahel. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'une des régions les plus complexes de la planète.
Vos points de vue, vos défis, vos récits et vos contributions sont les bienvenus.
Laissez-nous vos commentaires sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.